Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision. Et je suis très contente aujourd'hui parce que je vais avoir deux beaux invités et on va parler évidemment de deux passionnés, le sport, des jeunes dans la fleur de l'âge. Donc je suis vraiment contente, ça va être très intéressant de les découvrir. Mais pour commencer, on va aller retrouver Annie Perrault, psychologue. Et aujourd'hui, on va parler du traumatisme. Souvent, on entend parler des traumas, mais en lien avec l'handicap visuel, la perte de vision. Donc, on va avoir une belle émission ensemble. Et je vais rejoindre Annie au bout du fil. Allô, Annie!
Bien, bonjour!
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça se passe pour toi?
Oh, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente. Puis là, on s'est parlé hier. Hein?
Oui.
Donc, là, tu as collaboré à l'écriture d'un livre. Tout de suite, quand tu m'as parlé, je connais l'autrice, Pascal Brion. Donc, quand on est dans le milieu de l'intervention, on la connaît bien. Et là, tu as collaboré... dans le fond, tu as écrit un chapitre, mais c'est un livre en lien avec le traumatisme. Donc, on peut décortiquer le traumatisme de mille et une façons. Là. Donc, justement, avec Pascal Brion, souvent, j'ai fait des formations là, en lien avec quand on est professionnel de la santé en intervention, donc la fatigue de compassion et tout ça, qu'on peut vivre vraiment des grands bouleversements. Mais là, toi, tu vas venir nous parler du traumatisme en lien avec... l'handicap visuel, donc une perte de vision, parce que souvent, le trauma est associé à quelque chose qu'on va voir. Donc, comment qu'on peut définir, finalement, pour commencer, le traumatisme?
Ben, le traumatisme, en fait, on peut le diviser en deux catégories. On peut le diviser en termes de critères diagnostiques au niveau du post-traumatique. Donc, il y aurait un événement qui va être très, très marquant où il y aura une peur associée au fait de perdre la vie ou d'avoir notre intégrité, se voir menacée.
Oui.
Donc ça serait vraiment la définition en termes de post-traumatique. Mais sinon, les traumas, ça peut nous arriver de toutes sortes de manières. Puis là, on va l'interpréter plus à partir de la réaction que nous aurons face à un événement qui va être trop intense ou très intense, ce qui fait que l'événement a du mal à s'intégrer comme étant un événement banal.
OK.
Donc, ça laisse des traces à l'intérieur de nous. Puis, on peut penser à toutes sortes d'événements qui peuvent laisser une trace importante. Ça peut être le décès d'un proche, même si le décès n'est pas tant traumatique, cette perte-là peut être une source d'inconfort et de malaise très, très important qui fait que c'est difficile à intégrer. Ça peut être la perte, justement, d'un organe qu'on a dans notre corps, d'une maladie qui survient, qui ne s'est pas prévue dans le plan de match. Donc, quand ça laisse une trace importante au niveau émotionnel ou corporel, c'est-à-dire qu'on a des réactions qui se font de façon automatique puis involontaire, où on a des rêves, où on a des cauchemars plutôt, où on a des sensations qui nous envahissent, mais on peut dire que ça peut-être laisser une trace traumatique.
Donc, le traumatisme, souvent, on associe ça au choc post-traumatique. Mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le choc post-traumatique qu'on peut entendre? Tu sais, même moi, j'avais fait une formation, il appelait ça l'état de stress post-traumatique. Et les traumas, comme tu parles, comme exemple, je perds la vue et je deviens aveugle, donc je développe un traumatisme. Est-ce que c'est la... Est-ce qu'il y a comme une distinction entre les deux?
Ben oui, sur le plan diagnostique, on mettrait une distinction. Certains professionnels de la santé vont dire que certains traumas pourraient relever ou en fait implanter un choc post-traumatique, alors que ça ne définit pas tellement dans les critères diagnostiques comme tels. Ici, j'ai pas envie de m'enfarger dans les fleurs du tapis.
Non, mais je comprends qu'il y a quelque chose en lien avec un diagnostic. Donc,
oui.
Pour moi, c'est pas la même chose. Tu sais, je peux me diagnostiquer toute seule. Moi, je sais que j'ai des traumatismes de mes opérations et d'avoir perdu mon œil, mais j'ai pas un papier qui dit diagnostic. Je le sais que j'ai un traumatisme.
Exactement.
Par rapport au fait que quand je repense à l'événement, je le sais qu'il y a des traces qui sont assez incontrôlables au niveau de revivre des vraiment dans mon corps là, de revivre. Il y a des moments où est-ce que ça n'a aucun rapport. Exemple, je suis en train de me faire masser, j'ai la tête dans l'espèce de petit beigne, là, le petit coussin là, du visage, et ça coupe un peu ma respiration naturelle et ça me ramène à quand je me faisais opérer, mais alors que l'on met un plastique dans le visage. Donc, je sais concrètement qu'il y a un traumatisme, mais j'ai pas un diagnostic officiel. Fait que, je comprends, ce serait un peu là qu'on pourrait aller, là.
On pourrait discuter très longtemps.
Moi, c'est ça, exactement. Puis quand on perd la vision, justement, autant qu'on perd la vision, mais aussi qu'on est aveugle, est-ce que si on est aveugle, une cécité complète, le traumatisme va s'imprégner différemment?
Mmh. Alors, là, ce qui est intéressant ici avec la vision étant très impliqué dans les réponses d'orientation. Typiquement, chez la population générale, s'il y a un danger qui survient, un bruit soudain, ben, l'organisme va se tourner pour voir ce qui se passe. Mais si la vision est impactée, cette réponse d'orientation-là ne se fait pas de la même façon chez quelqu'un qui a une vision qui est perdue ou qui n'a jamais été. Oui. L'orientation il faudrait que je fasse une étude élargie là-dessus.
Oui.
La réponse d'orientation va être vraiment différente. Le corps va peut-être se tourner vers l'objet ou le bruit pour se situer, mais le sens de la vision ne peut pas être sollicité. Donc, il faut que la personne, dans sa réponse d'orientation, se fasse un sens de d'où est le danger.
OK. Ah oui, OK, parce que je sais qu'il y a aussi souvent en lien avec, tu sais, d'avoir vu quelque chose, d'avoir, comme exemple, j'ai été témoin d'un accident de voiture.
Oui.
Bon, bien,
l'a vu,
exact. Ouais. Mais ça se pourrait que je ne l'aie pas vu, mais que j'aie entendu le bang. Je sais à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose, il y a un accident, c'est dramatique.
Oui.
Mais là, mon corps, ça se peut qu'il regarde même pas, tu sais, dans le sens de la direction. C'est un peu ça que tu dis.
Ça.
Comme si, finalement, je vais vivre quelque chose de côté alors que c'est devant moi que ça se passe.
Ou derrière moi.
Ou derrière. OK.
Ouais.
Ça fait...
Mais l'impact dans le corps, la réponse du système nerveux sera semblable. C'est, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer?
Oui.
Est-ce que c'est très dangereux, c'est grave, c'est très, très grave? Est-ce que je suis en danger?
Oui.
Donc, en fait, une réponse d'orientation, c'est lorsque ça arrive quand il y a quelque chose qui se passe autour, mais ça peut être aussi tout juste avant que quelque chose se passe. Donc, on peut avoir une réponse d'orientation qui serait interne.
OK.
Le petit feeling de quelque chose d'étrange.
Oui.
Et j'ose croire que chez les personnes avec un déficit visuel, cette réaction-là, cette réponse d'orientation-là est peut-être un petit peu plus développée.
Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant parce que, exemple, moi, souvent, j'associe, je suis une femme en partant, donc je me retrouve souvent dans des situations où est-ce que je pourrais me sentir agressée. Par rapport à, comme exemple, je suis dans le métro et là, il y a moins de monde ou il y a trop de monde. Il y a des moments comme ça que ça se passe vraiment comme si je me sens en danger. Mais c'est pas vraiment visuel. Des fois, c'est vraiment plus dans le ressenti.
Dans le sensitif. Il y a quelque chose qui... Il y a une énergie qu'on perçoit.
Oui.
Il y a un changement subtil au niveau des sons autour de soi.
Oui.
Et ça, c'est bien fait. Dans le sens où ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a toujours du danger puis qu'on est en danger quand on a cette réaction-là. Mais c'est comme un indicateur. C'est comme si tout d'un coup, le vent tourne puis on le perçoit.
Oui. Ouais. Et on le voit aussi, il y a beaucoup d'hypervigilance. T'sais, moi, je sais que les personnes en situation de handicap visuel, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'hypervigilance. Mais je sais aussi que dans le traumatisme, il y a ça aussi, là, l'hypervigilance. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un, justement, qui a déjà un handicap visuel, donc est déjà confronté dès qu'elle sort de chez elle, hypervigilance pour son environnement qui est complètement pas contrôlé, il y a pas, tu sais, il y a vraiment quelque chose dans le corps devient un peu comme naturellement avec une espèce de méfiance interne
de vigilance.
De vigilance, c'est ça. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait plus d'hypervigilance?
Ben en fait, faudrait aussi là étudier la chose, mais je dirais que, étant donné qu'il y a un sens qui est moins accessible, il y a un relais qui se fait par les autres sens pour dire, OK, moi, j'ai pas accès à toutes les informations visuelles comme quelqu'un ordinaire, ce qui fait que comment je vais avoir accès aux autres informations en me promenant dans un environnement qui est soit sécuritaire ou soit inconnu.
Ouais.
Soit connu ou soit... plus menaçant. Les sens se mettent en action. Puis c'est bien fait, c'est super bien fait. Maintenant, comment on peut moduler la vigilance chez quelqu'un qui a une perte de vision ou qui a jamais eu la vision? Comment on peut moduler la vigilance? Bien, ça s'entraîne, ça aussi. Ça s'entraîne, on peut entraîner notre corps à réduire une vigilance qui peut s'être installée au fil de nos expériences, au fil des activités de la vie quotidienne.
Ouais.
Mais l'entraîner en se régulant davantage dans des environnements qui sont connus, sont stables, sont calmes. Puis là, on peut réduire cette espèce de vigilance qui prend trop de place, des fois qui est hyper activée.
Oui.
Voilà.
Et est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, ça serait de prendre plus notre temps, respirer, de calmer finalement cette espèce de stress-là dans le corps. Et déjà, quand on relâche les tensions, on est déjà moins en hypervigilance.
Ça peut avoir cet impact-là sur la vigilance. Donc, le fait de s'arrêter, de mesurer ce qui se passe autour, puis de faire la rétroaction avec le corps, tu vois, comment on peut se permettre de dire, OK, ici, maintenant, ça va, là. Je peux continuer mon exploration.
Oui, c'est ça.
Parce que l'exploration est un système d'action qu'on porte tous.
Oui.
Et quand il a été peut-être tronqué par une perte de vision, bien, il faut explorer avec les autres sens, puis avec confiance, avec des expérimentations qui vont être porteuses de succès. Mais lorsqu'il y a des impacts négatifs ou des situations désagréables, notre système à la fois d'orientation puis notre système d'exploration peuvent encaisser des coups.
Oui.
Puis donc, il y aura des réactions qui viennent avec ça qu'on peut tenter de rassurer, calmer, améliorer. Mais dès qu'il y a des expériences qui sont un petit peu plus traumatisantes, ça se peut qu'on aura à travailler un petit peu plus fort pour mettre les réponses du corps, pour les orienter de façon à ce qu'on ne soit pas toujours hyperactivé et qu'on puisse se réguler davantage. Ouais.
Et une des façons, ben, c'est justement d'aller consulter quelqu'un qui va nous aider au niveau de la psychologie ou différents intervenants finalement professionnels de la santé. Annie, rappelle à quel endroit qu'on peut retrouver là, ton site Internet, puis par le fait même le livre aussi que tu as collaboré.
Alors, le livre, c'est un livre surtout destiné aux intervenants qui s'appelle « Mieux soigner le trauma » sous la direction de Pascal Brion.
Oui.
Il y a différents chapitres qui touchent différentes méthodes de traitement du trauma.
Oui.
Ça peut être intéressant. Sinon, on peut me trouver à travers les internets avec Annie Perrault, psychologue. Alors, voilà.
Mais merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Puis ça m'a déjà donné une idée là, pour une prochaine chronique. Là, j'aimerais ça qu'on décortique davantage l'hypervigilance.
Oui, Exactement, c'est un bon, on a fait un bon point de départ.
Oui, c'est ça, exactement. Bien, je te souhaite une belle journée.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt, bye-bye. Et là, je vais accueillir deux beaux jeunes de 23 ans, Nathan Tunis et Thomas Raymond. Et là, j'accueille Nathan Tunis et Thomas Raymond, deux beaux jeunes de 23 ans, des grands sportifs dans les hiboux, hein, le hockey sonore. Mais moi, j'avais envie qu'on les découvre, hein, qu'on en apprenne davantage. Ça va être super intéressant. Allô, les gars?
Salut, salut.
Salut, salut.
Je suis vraiment contente de vous avoir parce que je m'étais donné vraiment le mandat cette année dans mon émission. Là, je voulais donner la parole aux plus jeunes, tu sais, d'entendre la jeunesse. Puis là, je me suis dit, wow, 23 ans, c'est parfait parce que vous êtes dans le début de, tu sais, OK, j'étudie là-dedans, mais tu sais, où va s'en aller votre vie? Il y a encore tellement de possibilités, vos rêves et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que, ben, c'est ça. C'est beau de voir des jeunes qui ont une situation de handicap visuel, évidemment, là. Donc, juste pour commencer déjà, pour situer les gens, on va regarder c'est quoi un petit peu votre handicap visuel parce que il est déjà quand même moi quand je lisais ce que vous m'avez dit, c'est déjà des choses que j'avais pas encore entendues. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce que j'en apprends moi aussi. Thomas, non, excuse-moi, je dis Thomas puis je pointe l'autre bord.
Ça, c'est correct.
C'est ça, Thomas. Ton handicap visuel, toi, c'est arrivé à quel âge? Est-ce que c'est de naissance?
Non, mon handicap visuel, c'est pas de naissance. C'est arrivé à 15 ans et demi, je me souviens bien.
OK.
Dans le fond, moi, je vois sur les côtés, ma vision centrale, je manque un peu d'acuité visuelle.
OK.
C'est comme tout flou. Moi, je compare ça souvent un peu. Quand on regarde en dessous de l'eau, c'est souvent comme un peu plus embrouillé. Fait que j'ai de la misère à faire les contrastes sur ma vision centrale.
OK.
Mais je vois quand même très bien, tu sais, sur les côtés. Fait que c'est ma vision périphérique qui me permet de bien m'orienter nécessairement aussi.
OK. Mais c'est toi, tu dis que t'es arrivé à 15 ans et demi. Donc, ça veut dire que quand t'es né, pas d'handicap visuel ou c'est parce qu'on le sait pas encore?
Bien, j'avais... Dans le fond, c'est une maladie génétique que je savais pas que j'avais en dedans de moi.
OK.
Mais... traumatisme, coup à tête au hockey, puis ça a déclenché vraiment la maladie à l'intérieur de moi. Fait que, ouais, c'est ça.
OK, mais c'est pas relié, dans le fond, au traumatisme, l'impact que tu as eu au niveau de ton cerveau?
Ça pourrait être relié.
Ça pourrait, OK, OK.
Il y a forte chance que ça soit ça. Il y a plus de pourcentage que ça soit ça.
Que mettons, ça soit ça.
Abus d'alcool ou de drogue, là, mettons.
OK. Puis là, ça veut dire que toi, 15 ans et demi, tu vois... Ben 15 ans et 3 quarts. Tu sais, c'est comme tu vois, puis là, rendu 15 ans et demi, paf, tu te lèves un matin, pratiquement,
ben,
perte de vision.
Ça n'a pas été du jour au lendemain, tu sais, je me suis levé pas avec une perte de vision. La vision, elle a chuté en dedans de 2 mois. Fait que c'est quand même assez rapidement
même
aussi.
Rapide,
moi,
là.
Je pensais au début, j'avais juste besoin d'une... de lunettes à cause que je voyais pas très bien au tableau à l'école, mais en réalité je compare toujours ça, tu sais, comme le test qu'ils font aux optométristes, comme le gros E au début, avec mon œil droit, j'étais pas capable de le voir dans le fond. Fait que
okay.
C'est choquant.
Oui.
Ça, en dedans 2 mois, la vue, elle a quand même chuté assez rapidement. Là.
Et ça veut dire que ta vue, elle a chuté, mais est-ce qu'elle est restée comme ça ou c'est quelque chose qui est dégénératif?
Là, en ce moment, elle est beaucoup stable.
OK.
Tu sais, il parle pas de dégénération non plus. Fait que là, je suis beaucoup dans la stabilité. J'ai même repris un peu de vision auparavant, mais là, c'est beaucoup stable depuis dernièrement. Là.
Donc, ça voudrait dire que ça se pourrait que ta vision reste... comme ça, quelque chose qui ressemble à ça. Là.
Exactement.
On t'a pas dit, tu t'en vas vers une cécité en vieillissant.
Non.
OK, OK. Et justement, toi, c'est un impact que tu as eu au niveau du cerveau, mais ça veut dire toute ta jeunesse, tu voyais...
Je voyais normalement.
Ben, normalement,
je n'étais pas considéré comme une personne handicapée visuelle.
Oui, c'est ça. Ça veut
exactement.
Dire que ton parcours, ton début de vie... C'est fait un peu comme tous les enfants qui n'ont pas d'handicap visuel. Là.
Exactement.
OK, OK. Et toi, Nathan, c'est autre chose. Mm-hmm. Toi, c'est pas relié à un impact au niveau du cerveau. Toi, c'est vraiment plus de naissance.
Exactement. Puis ça vient en fait d'un syndrome très rare que je nommerais... Mais que je, ça s'appelle Wagger, en fait.
Oui, c'est mais, ça. Tu me l'as écrit, mais j'ai mais, dit...
Mais ça ferait beaucoup trop compliqué à expliquer et
ouais,
pas assez
ouais.
de temps.
Ouais.
Mais la grosse chose pour la vision, c'est l'anérédie. Donc, c'est le manque... moi, c'est le manque partiel de l'iris.
Ben
donc,
oui.
la couleur autour des yeux. Donc, la ouais. lumière au niveau de mon... champ visuel va beaucoup m'impacter, en, ça va tout m'éblouir en fait.
OK.
Puis ça va faire en sorte que je vais comme tu sais, si on met une flashlight devant tes yeux, tu vas
oui.
tout voir noir. Moi, c'est comme ça un peu.
OK.
Puis un peu contrairement à Thomas, moi, c'est vraiment la vision centrale. Fait que c'est comme des œillères de cheval que je vois. Fait qu'à un certain degré, je vois plus sur les côtés périphériques. Puis je fais souvent ouais. les blagues avec des personnes qui ont la vision comme Thomas, qui ouais. sont mixées ensemble, on aurait
c'est
une
parfait.
Vision parfaite. Ouais,
exact.
C'est parfait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais toi, comme tu dis, c'est l'iris. L'iris,
ouais.
c'est la couleur de mm-hmm. l'œil.
Ouais.
Ça veut dire que toi, exemple, on regarde ton œil, mm-hmm. il n'y a pas de couleur, ou tu sais, dans le fond, c'est comme si ta pupille... est plus grosse?
En fait, c'est comme si tu regardais juste la pupille. Fait que mes yeux sont toujours dilatés.
Ben, c'est... OK, c'est ça.
Dans un certain sens.
Oui.
Mais vu que c'est partiel, il y a un petit peu de couleur.
Okay.
Mais vraiment peu pour que ça m'impacte à long terme. Si je suis dehors pendant très longtemps,
oui.
puis je rentre à l'intérieur,
ah,
là,
oui.
je ne pourrais plus rien voir.
Là, tu es aveuglé.
Exact.
Là. Mais ça, c'est comme exactement, comme tu as dit, t'es les personnes en situation de handicap visuel, on est quand même bien habitué de se faire dilater
mm-hmm.
les yeux.
Ouais,
là, donc,
ouais.
Surtout si on a des atteintes un petit peu plus au niveau rétinien et
mm-hmm.
tout ça, l'intérieur de l'œil, on nous dilate
mm-hmm.
et c'est l'aveuglement. Ouais. Je veux dire,
mm-hmm.
ça rend, la lumière rentre tellement,
ouais,
c'en
ouais.
est même douloureux. Là,
mm-hmm. ouais.
Parce que là, tu sens là, que là, ton œil n'est pas capable d'absorber le peu d'éclairage et on dirait que ça fait qu'on voit tout flou même. Là,
mm-hmm.
comme si tout est en... On dirait que les lettres s'entremêlent et tout ça, mais c'est vraiment relié au fait qu'on est dilaté. Mais toi, c'est-tu un peu ça aussi?
Oui, mais en fait, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement de douleur parce que moi, je compare souvent que mon cerveau s'est habitué. Fait
okay.
que moi, vu que c'est une naissance aussi, mon cerveau s'est habitué. Fait que c'est sûr que il n'y a pas nécessairement de douleur, mais ça me prend un moment comme d'adaptation
mm-hmm.
quand je change de pièce, qu'il y a beaucoup de lumière, à moins de lumière.
Ouais.
Ça, bien évidemment. Là.
Et toi, dans le fond, vu que c'est de naissance, même chose, ça veut dire que toi, tu as cette vision-là depuis...
Mm-hmm.
ou ça dégénère?
En fait, avec l'anérédie, ça donne plusieurs problèmes que j'ai eus.
OK.
Donc, par exemple, cataracte, glaucome, ça peut
ouais.
affecter à long terme. Donc, c'est sûr que pour l'instant, puis depuis toujours, ça a été relativement stable.
OK.
Mais encore là, on m'a averti qu'au fil du temps, ça pourrait... baisser, en fait, la vision. Là.
OK. Donc, toi, tu es dans une situation que ça se pourrait... que ça s'en aille vers une cécité.
Oui, exact.
Comme si on t'a un peu préparé.
Oui, exact.
OK, OK.
Il y a des risques.
Il y a des risques, en
exact.
Fait.
Ouais.
Souvent, on se retrouve, quand on a une maladie dégénérative au niveau des yeux, on nous le dit, on
mm-hmm.
nous prépare.
Exact.
Ça peut se rendre là.
Mm-hmm.
On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est
ouais.
que quand il y a une différence entre des gens qui ont vraiment une maladie dégénérative
mm-hmm.
et d'autres que c'est pas dégénératif.
Exact,
là.
Ouais.
Mais toi, ça veut dire que tu t'es construit
mm-hmm.
avec ton handicap visuel. Donc,
ouais.
le petit garçon, tout
mm-hmm.
ce que t'as fait, toi, t'avais déjà à vivre avec les impacts, finalement, de l'handicap visuel.
Exact. Puis aussi, j'habitais à l'Outaouais.
Donc
c'est sûr que c'était un autre gros défi supplémentaire vu
mm-hmm.
que j'étais... C'est dans mon entourage, le seul qui avait un handicap visuel. Exact.
Ben les deux, en fait, vous n'êtes pas dans une situation où est-ce que dans votre famille, il y en a d'autres. Là.
Ben moi, je suis le premier dans ma famille à l'avoir développé techniquement la maladie.
Ben c'est ça. Donc, ça veut-tu dire que là, comme c'est toi qui l'as développé, il y aurait des risques que tu le transmettes?
Ben, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai pas lu là-dessus, mais dans le fond, tu sais, de ce que j'ai compris, c'est plus la mère qui peut le transmettre à ses enfants. Tu sais, moi, je pourrais pas le transmettre plus tard, nécessairement.
OK, OK. Ben oui, parce que c'est des trucs de gènes, de chromosomes. Donc, c'est ça.
On rentre dans le scientifique, là.
Dans le scientifique. Mais ça reste que les deux, vous êtes dans une situation où est-ce que votre jeunesse ne s'est pas passée avec d'autres modèles en lien avec l'handicap visuel?
Non.
Ouais.
Toi, t'as dit que t'étais d'Outaouais, Nathan?
Mais j'ai grandi dans l'Outaouais, donc je suis né à Montréal, mais j'ai rapidement, quand j'étais vraiment bébé,
ouais,
en Outaouais jusqu'à l'âge de 12-13 ans, en fait.
Et là, après ça, t'es revenu à Montréal?
Oui, exactement.
OK. Et toi, est-ce que t'es de Montréal?
Ben, la rive sud de Montréal, Sainte-Julie. J'ai toujours été à Sainte-Julie, fait que Québec, Montréal, c'est mon coin, là, dans le fond.
OK, OK. Mais là, vous êtes dans les hiboux. Le seul hiboux, c'est à Montréal.
Exactement.
Exact.
OK. Est-ce que à ce moment-là, c'est parce que vous saviez qu'il y avait ça qui existait à Montréal ou vous avez dû faire des recherches?
Mais moi, pour ma part, j'en avais entendu un peu parler de bouche à oreille, t'sais, vu que j'avais déjà un handicap visuel. Pas énormément. Moi, c'était surtout ma mère qui revenait travailler à Montréal. Fait qu'on a comme déménagé, mais après ça, vu que c'est un peu mon rêve de jouer au hockey, j'ai fait beaucoup de démarches, autant avec la SAM, puis après ça, ça a été un contact avec Gilles Ouellet,
ouais,
le président des Hiboux, qui m'a vraiment tout donné les démarches pour pouvoir me rendre là, mais ça m'a pris le début préadolescence avant de connaître les Hiboux.
OK, OK. Et toi, est-ce que tu avais déjà entendu parler des Hiboux? Ou...
Moi, je jouais déjà au hockey avant, mais j'avais, tu sais, quand j'ai été suivi à l'Institut Nazareth et Louis Bryce, et là, j'en ai vraiment entendu parler, tu sais, ça fait que c'est... Je n'avais pas entendu parler dans ma jeunesse, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de vision que là, j'ai commencé à en entendre plus parler. Là.
Mais tu dis que toi, ben, c'est arrivé un peu sur le tard, là, dans le fond, les hiboux. Fait que là, t'es dans les hiboux depuis que t'as quel âge, Thomas?
16 ans. J'ai 16 ans, ouais.
OK. Puis toi, Nathan?
Officiellement 15. Mais okay. Parce que c'est compliqué, mais à 13 ans, j'étais comme un peu comme... et demi où Gilles me connaissait puis il me faisait aller aux pratiques puis tout,
ouais,
mais plus officieusement là à 15 ans.
OK, OK, donc c'est ça, là. Ça fait quand même déjà plusieurs années que vous êtes avec les hiboux. Mais c'est vraiment super intéressant parce qu'on va pouvoir en apprendre davantage tout de suite après là, cette petite pause. Puis ensuite, on va pouvoir apprendre un peu plus au niveau de, justement, tu sais, oui, le sport, tout ça, mais tu sais, des obstacles que vous avez eu pour faire finalement votre sport là, et aussi ben, dans quoi vous étudiez, tout ça. Donc, on va pouvoir parler de ça au retour.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Avant la pause, on parlait justement des hiboux, tout ça, mais moi, je voulais savoir aussi, les gars, dans quoi vous étudiez. Hein? Parce qu'à 23 ans, on se doute bien que vous êtes en train d'étudier ou si vous n'étudiez pas, vous travaillez. Nathan m'a dit qu'il étudiait à ta dernière année pour être fier TES. Mm-hmm. Hein? Donc, là, je dis pas ça, Thomas, tu sais, contre toi, là, mais c'est juste que toi, vente conseil, c'est moins un métier que je connais. Mais Nathan, dans le fond, toi, là, parce que je sais que moi, l'intervention, c'était comme clair que j'allais faire ça là, quand j'avais 17-18 ans, mais j'avais l'enjeu de l'handicap visuel et je n'ai pas été épargnée par les défis et, et tous les problèmes qui s'ensuivent. Mais toi, à ce moment-là, tu avais déjà ton handicap visuel, donc tu as décidé d'aller étudier en éducation spécialisée.
Mais oui, puis aussi avec mon handicap visuel que j'ai eu depuis toujours, j'ai été suivi là, par une TS à l'école, puis une orthopédagogue, puis c'est, j'ai eu mes sources de services dans les écoles. Donc, au début, c'était pas ça que je voulais faire.
Okay.
J'étais allé en multimédia parce que j'aimais ça faire du montage, j'aimais faire un peu le contenu vidéo.
Ouais.
Puis tu sais, je savais pas comme à l'âge de 16 ans vraiment savoir quoi faire vraiment. Mm-hmm. Mais j'ai pas tant aimé ça, fait que après ma troisième session au cégep, j'ai revu tous les programmes, puis quand j'ai vu éducation spécialisée, ça a cliqué, j'ai comme, je me voyais vraiment là-dedans comme une personne, vraiment ça, puis depuis ce temps-là, j'adore aider les gens, j'aime ça intervenir, puis être avec la clientèle, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne à chaque jour.
Et en plus, tu as aussi travaillé, là, donc déjà, tu as quand même eu un petit avant-goût, là, hein, parce que tu as même travaillé à la SAC.
Oui, exact. Depuis très peu, là, en fait, Bruno Haché m'a contacté, puis il a pensé à moi comme pour l'aider comme intervenant sportif dans l'accompagnement avec des personnes qui ont une déficience visuelle. Puis j'ai comme relevé le défi, tu sais, j'ai accepté le défi, ce que ça prenait, puis honnêtement, j'aime vraiment ça, tu sais, je pense que je mélange mes deux passions, le sport, puis aussi l'intervention, puis vraiment, j'adore ça.
Ouais, ben ça, je te comprends, parce que moi, quand j'étudiais, en même temps, je donnais des cours de théâtre, parce que moi, c'était le théâtre, donc là, je faisais ce que j'avais appris dans mes cours dans le théâtre. Donc là, je pratiquais mes techniques. Fait que ça me permettait de faire mes deux passions. Donc, je te comprends très bien. Mais toi, Thomas, on est plus dans, justement, la vente conseil. Donc, en ce moment, tu étudies...
J'étudiais... l'année passée, j'ai fait mon cours en vente conseil... à l'école à Saint-Gio, sans formation professionnelle.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un certain intérêt pour la vente.
Ouais.
L'école, honnêtement, ça a toujours été un peu plus difficile. Il a toujours fallu que je persévère. J'étais toujours sur le bord de passer sa fesse, là, mettons. Mm-hmm. Certaines matières. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Puis j'ai besoin, honnêtement, d'être stimulé un peu. Tu sais, rester assis en arrière d'un bureau, honnêtement, moi, j'aime pas tant ça. Là. C'est comme. Faut que ça bouge un peu. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, la vente, ça bouge quand même un peu aussi. Je peux. Ça paraît pas, je suis capable de me déplacer pareil aussi. Fait que je m'empêcherai pas nécessairement pour ça aussi. C'est sûr que je vais pas dire, mettons, je vais aller faire de la construction avec un marteau avec ma déficience visuelle. Ça va être c'est un peu moins logique, là, mettons.
C'est peut-être un petit peu plus... Mais on voit qu'avec ton profil, probablement que t'aurais été un excellent gars de construction, là, et tous les trucs, ben, ça bouge, là.
Ouais, hein? C'est vrai.
Mais là, vente conseil, là, dans le fond, t'as étudié, ça veut dire que tu as terminé?
Bien, j'ai terminé mon cours. Là, je travaille en ce moment au sport expert à Saint-Louis en tant qu'assistant gérant. Je voulais faire représentation après aussi, mais il y a eu des petites complications, fait qu'à voir pour les futurs.
Représentation?
Prochains. Dans le fond, représentation, ça serait plus, mettons, représenter une marque en tant que telle, nécessairement. C'est pas nécessairement, tu sais, comme... business to customer, mais plus du business to business un peu.
Mais là, comme là, dans le fond, t'es au Sport Expert. Là, donc, si on prend l'exemple d'être représentant au Sport Expert, ça serait d'aller, finalement, représenter...
Une marque quelconque du Sport Expert. Mettons, on prend l'exemple North Face, Columbia, Adidas, peu importe.
C'est ça, exactement. Mais là, ça veut dire que là, tu travailles là-dedans en ce moment.
Exact.
La vente, qu'est-ce qui t'a comme attiré là-dedans? Tu dis que déjà quand tu étais plus jeune.
Ben, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu, tu sais, comme ma marraine, mon parrain, ça travaille dans la vente. Okay. Ma mère aussi, elle travaille un petit peu dans la vente aussi. Fait que, tu sais, c'est comme. J'ai toujours eu. J'ai comme grandi un peu dans la vente. Ouais. Fait que j'ai comme. Ça a resté avec moi aussi. Ça travaille l'autonomie un peu. Les, trouver des solutions à des problèmes. Fait que c'est plus ça, mettons, que. Qui me pousse à rester là-dedans, mettons, on peut dire.
Et la vente, c'est quand même un challenge, là, parce que dans le fond, tu as comme un produit que tu veux vendre ou quelque chose que tu veux vendre, puis là, la personne est devant toi, puis là, des fois, ça peut commencer une espèce de joute verbale.
C'est,
là,
c'est comme un débat, un peu, objection,
ça.
Tout ça, ramener les points forts. Fait que...
C'est ça, puis là, la personne dit « Ah ouais, mais je suis pas sûre. »
Ça l'amène du...
c'est ça, là.
De l'énergie, du stimuli un peu dans la vie.
Complètement. Moi, je suis à l'opposé. Je me rappelle même quand j'allais, exemple, tu sais, un marché aux puces ou tous ces trucs-là. Puis j'avais une de mes amies qui me disait ça. Elle dit non, mais là, tu peux dealer, là, tu peux t'obstiner que le gars, là, lui, il veut te vendre ça 20. Toi, tu lui dis parfait, moi, je le prends, mais à 15. Et moi, je dis ça une fois. Puis après ça, il dit non, c'est à 20. OK, parfait. tu sais, vraiment, je suis vraiment pas très bonne là-dedans, mais je trouve ça super. super fascinant, les gens qui ont ça très naturel, là.
Ben, je dirais pas que j'ai ça naturel, c'est du travail aussi,
ben,
pareil.
Du travail, ben, mais il faut quand ça. Même que t'ailles un certain...
Faut aimer travailler avec le public. Là,
ben oui, ça c'est
si
ça.
Si tu vas dans la vente puis t'aimes pas être avec le public,
ça
c'est pas à bonne place.
Non, c'est ça, exactement. Et Nathan, là, dans le fond, toi tu disais que bon, tu viens de l'Outaouais, tout ça. Ouais. Toi, c'était-tu clair? Parce que Thomas, lui, on le voit, là, c'était vraiment un gars déjà de hockey avant d'avoir l'impact au niveau du cerveau. Mais toi, est-ce que tu étais déjà dans le hockey quand tu étais plus jeune?
Mais j'ai jamais joué au hockey quand, dans une équipe, en fait. Puis c'est pour ça, tu sais, c'était mon rêve un peu de jouer dans une équipe.
C'était ton rêve.
Oui, exact. C'était mon rêve de jouer dans une équipe de hockey, mais je pouvais pas parce que j'avais un handicap visuel. Puis j'étais le seul de la région, des très rares de la région. Là. Donc, ça fait qu'on. J'avais pas la possibilité, mais je jouais toujours au hockey. C'était dans le cours de récréation avec mes amis au mini-stick, là. Pour ceux qui peuvent s'en rappeler,
Oui.
Dans mon sol, j'avais un filet, je tirais des balles de styromousse dans mon filet. Ma mère me faisait une patinoire extérieure.
Ah, oui.
Puis on allait patiner après l'école. J'ai pris quelques cours de patin. Là. Je pourrais pas dire que je voyais la motivation parce que je voyais pas le but, on pourrait dire. Mais j'ai toujours eu ça dans le sang depuis l'âge de mon plus jeune âge là, de jouer dans une équipe et de jouer au hockey. Là.
OK. Mais toi, comme ton handicap il était déjà présent, ça veut dire que tu as appris déjà à jouer au hockey avec cet enjeu-là visuel.
Exact.
Mais tu l'as appris comme ça. Donc, tu as appris à faire du patin, à compter des buts, tu sais, avec l'handicap visuel.
Exact. Puis, tu sais, j'ai appris tout ça. Tu sais, j'ai appris des façons de aussi mon cerveau à voir le jeu. Fait que quand je vois le jeu partir d'un bord, même si je vois pas la balle, je suis capable de comprendre le jeu. Ça va vers. De ce côté-là.
Ouais.
T'sais, j'ai des petits trucs comme ça qui m'ont permis de développer mon côté hockey, là, même avec ma déficience
visuelle. Ben oui. Tandis que toi, Thomas, c'est autre chose. Toi, t'as appris à jouer au hockey en voyant bien.
Ouais.
Et là, comment ça se passe? C'est comme une de réapprendre.
Ben, c'est pas une. Ben oui, ça reste une réadaptation parce que le sport reste différent en tant que tel aussi.
Oui.
C'est pas. Il y a des petites variantes aussi, mais tu sais, il n'y a pas eu un très grand apprentissage, mettons, versus hockey normal, versus hockey sonore, pour ma part. Perso, comment je l'ai vu, là. T'sais, je...
Mais l'hockey sonore, ça le dit, c'est sonore. Ça veut dire que là, tout d'un coup, tes yeux, ils s'est fermé. Ils ont un bandeau.
Ben, tu sais, moi, je dis toujours un bandeau, il est vague un peu parce qu'on a toute une certaine vision pareille aussi. Fait que, tu sais, on n'est pas nécessairement dans le noir total. Les seules personnes qui sont dans le noir total, c'est vraiment les goalers. Fait que, tu sais, oui, c'est une adaptation, mais tu sais, j'ai joué au hockey, je pense, depuis j'ai 3-4 ans. Tu sais, l'orientation de la patinoire, ça reste pareil. Je sais la bande est où, la ligne rouge. J'ai déjà mes repères depuis que je suis tout jeune. Là, fait que...
Et comme tu avais déjà le patin acquis, ça aide aussi. Là,
ça aide aussi, oui.
Parce que je pense que ça, c'est quand même un côté... parce que veux pas le patin, tout au niveau du sens de l'équilibre, c'est quand même un enjeu. Là, quand on a une perte de vision, l'équilibre et tout ça, ça peut être affecté.
Ça peut être affecté un peu, mais j'ai pas... Là-dessus, honnêtement, j'ai pas vu nécessairement de différence flagrante, nécessairement.
Là, OK. Ça. Mais toi, comme c'est arrivé, t'as 15 ans et demi, t'es un adolescent, là. T'es à 15 ans et demi, on le dit souvent, la crise de l'adolescence, là. Et là, toi, tu perds la vue, puis t'es un adolescent. Comment... Comment ça s'est passé, ça?
Ça frappe un peu, parce que là, tu étais à l'école, là, tu sais, il a fallu que j'ai manqué une année d'école à cause de, justement, mon problème de vision, à cause que on savait pas trop, tu sais, si une maladie qui est... Les symptômes avant qu'ils apparaissent, c'est un peu plus long avant que... Ça apparaît en dedans de mon œil. Fait que, tu sais, ça a été long avant que je trouve un peu vraiment qu'est-ce que j'ai aussi. Fait que j'ai manqué une année d'école. Là, j'ai manqué ma graduation en même temps que ma
gang. Secondaire 5, dans le fond,
que
t'as manqué.
En même temps que ma gang de chums que j'ai suivi depuis un tout jeune âge.
Oui.
On se connaissait depuis 3-4 ans. Puis toujours tough, mais en réalité, faut continuer à avancer puis performer.
Enfin, c'est comme si t'as doublé.
On peut dire ça de même. Sans nécessairement que j'ai doublé, mais c'est en raison médicale aussi.
Exact. Donc, c'est comme t'as perdu une année, mais ce qui fait que ta graduation est arrivée comme un an après.
Après, j'ai eu la COVID. Fait que c'est tout, c'est vraiment...
Ah oui, tout
est arrivé pour que ça soit plus...
Un défi.
Ça rentre un peu plus.
Oui,
là.
C'est ça. Mais est-ce que tu as vraiment eu l'espèce de choc? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de là pourquoi j'aime ça donner la parole à des plus jeunes. Parce que, tu sais... Souvent, je trouve que quand on est établi dans notre vie d'adulte et que là, le choc de la perte de vision arrive, on dirait que c'est beaucoup plus déstabilisant que quand ça arrive un petit peu plus jeune. C'est comme une impression que j'ai. J'ai l'impression que vous, naturellement, vous êtes un peu plus... il faut que la vie, ça avance, puis on continue, puis on... En tout cas, c'est un peu ça, j'entends, de toi,
moi, c'est comme ça que je vois ça. La vie, elle s'arrête pas, la vie continue, il faut continuer d'avancer. Il y a d'autres objectifs qu'on peut atteindre aussi. C'est pas parce qu'on est nécessairement avec une limitation visuelle qu'il faut arrêter la vie. La vie continue. On est encore très jeune, 23 ans, c'est encore très jeune. Il y a encore beaucoup de vie devant nous, tant qu'à moi.
Ben oui, c'est ça, sauf que c'est ça que je trouve beau, parce que c'est comme si finalement, tu sais, avec votre jeunesse, vous êtes des modèles, tu sais, vous êtes super inspirants pour des personnes qui perdent la vision plus tard. Et le nombre de personnes, tu sais, qui ont justement des personnes âgées, des personnes qui ont vu toute leur vie, puis là, ils ont 60 ans. Justement, vous devez le connaître. Bien, il n'est pas vous devez, vous le connaissez. Il est dans les hiboux, Pierre Brisebois.
Mm-hmm. Ouais.
Bon,
ouais.
Pierre Brisebois, moi, c'est un de mes amis. Mais Pierre, lui, il a commencé à avoir sa perte de vision, il avait 49 ans. Et là, tranquillement, mais il était papa, il était, il avait, tu sais, il travaillait, tu sais, il était établi. Et là, ça arrive à 49 ans, tu sais, t'arrives, t'as 50 ans. Tu sais, c'est pour ça que je dis que des fois, on dirait en vieillissant, ça frappe plus fort que les plus jeunes, tu sais, de dire, ben non, moi, je veux jouer au hockey. Bon, parfait. C'est quoi les solutions? Je veux jouer au hockey. Des fois, quand ça arrive un peu plus tard, on dirait que c'est quoi je fais? C'est quoi mes options? Donc, c'est pour ça que je trouve ça super inspirant de vous entendre, parce que là, je me dis, mon Dieu, on a des choses à apprendre de votre force puis de votre résilience. Et là, justement, votre passion, c'est le hockey. Bon, les hiboux. Mais est-ce que vous avez d'autres passions? Soit le sport ou autre chose?
C'est sûr que moi, c'est des fois le montage, la création de contenu, beaucoup qui me passionne aussi. Là,
OK.
Puis aussi, j'ai beaucoup fait de danse pendant que j'étais jeune.
De la danse?
Oui, j'ai fait de la danse, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du popping, j'ai fait du breakdance. J'ai même été dans l'équipe de breakdance de mon cégep l'année dernière. J'ai aussi de la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait du drum, j'ai fait beaucoup de choses.
Donc on a un côté ici un peu plus artistique là, de ton côté, là, Nathan.
Oui, puis je pense que ça vient aussi de mes parents qui baignent, c'est des musiciens professionnels aussi, mes parents.
Ah oui, donc dans un milieu, toi, c'est ça.
Mais ça, fait que j'ai grandi dans la musique, puis j'ai grandi un peu dans l'art. Mm-hmm. Fait que c'est un côté-là que mes parents ont voulu quand même... montrer un peu pour dire que je l'ai fait un peu.
Ouais.
Mais vraiment, ça, c'était vraiment récréatif. C'est pour le plaisir, là, toujours, qui voulait que je suis allé là-dedans. T'sais.
Mais qu'est-ce qui fait que tu es allé en intervention, que tu n'es pas allé en musique? Ou en danse, là,
mais
finalement?
Encore là, je pense, tu sais, l'affaire, c'est danse, puis la musique, à un certain point, ça devient très compétitif, puis très difficile à rentrer. Là. C'est, tu sais, faut que tu pratiques, puis... La pratique dans ça, tu sais, moi, je le faisais beaucoup pour le plaisir, puis le plaisir, fait que pratiquer régulièrement, puis de manière à, tu sais, faire des concours, faire des...
Mm-hmm.
Puis, tu sais, devoir toujours être, comme, on va dire, meilleur dans cette phase, dans cet aspect-là, ça m'intéressait pas vraiment. Moi, j'étais plus là pour avoir du plaisir, bouger, puis faire une autre activité. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que je suis pas rentré exactement là-dedans, puis j'ai toujours eu cette fibre-là d'aide, d'intervention, de toujours. Fait que c'est pour ça que je suis allée en intervention au lieu de suivre un peu les racines familiales.
Oui, et ça peut rester aussi une passion à côté, là, comme tu dis. Tu peux être intervenant et jouer du drum la fin de semaine.
Exact.
Puis Toi, Thomas?
Moi, ça a toujours été le sport, peu importe.
Le sport, hein?
L'hiver, je jouais au hockey. L'été, je pouvais jouer au baseball. La même, j'ai lâché le baseball pour me concentrer un peu plus au hockey.
Okay.
Même encore là, ce jour aussi, je joue encore au hockey, tu sais, comme l'hiver tout le temps.
Ouais.
L'été, là, je joue un peu plus au golf aussi. Fait que ça a vraiment été pas mal, tu sais, toujours le sport.
Oh, ouais, toi, c'est ça, là.
C'est sportif.
C'est vraiment sport, sport,
c'est
sport.
Exactement,
là.
Ouais.
Donc, dans le fond, c'est comme un peu de découvrir, finalement, d'autres sports. Tu sais, t'as-tu essayé, exemple, je sais pas, le sissi-foot, tennis sonore?
Non, mais c'est vrai. Il y a justement, Nathan l'a mentionné, Bruno Haché.
Ouais.
Il joue beaucoup au goalball.
Il
essaie beaucoup de me faire jouer à ça. Peut-être à découvrir, on va voir qu'il y en a.
Mais sinon, toi, c'est vraiment. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment dans le hockey.
Dans le hockey, effectivement.
Et là, le hockey sonore, là, bon, les hiboux, là. Est-ce que c'est vraiment récréatif ou vous avez des envies d'aller comme. Plus loin avec ça, là.
Vas-y, attends, je laisse commencer.
mais, tu sais, c'est sûr, c'est récréatif. Tu t'en as eu un mini-sens de, tu sais, compétition qu'on veut gagner, tu sais, qu'on se parle des équipements-là. Moi, par contre, c'est sûr que mon but ultime, ça serait, tu sais, de jouer pour l'équipe nationale si un jour ça peut arriver.
Ah.
Par contre, moi, ma vision, pour l'instant, me permet pas d'y atteindre à cause que j'ai comme une trop bonne vision. Ça prend, ça prend 10% et moins pour pouvoir être éligible à l'équipe nationale.
Mais là, on veut pas.
Mais non, mais c'est ça. Fait qu'on va dire dans ma malchance, j'ai quand même une chance d'avoir. Mais c'est sûr que si j'ai un rêve en tant que tel, ça serait là, d'y accéder un jour à l'équipe nationale.
De hockey.
Ouais, de hockey, exact.
Vraiment.
Ouais.
Et toi, Thomas?
Ben moi, c'est sûr que là, le hockey sonore veut pas, ça reste un sport assis encore en développement aussi.
Oui, vraiment.
Tu sais, au niveau, Nathan il a parlé de l'équipe nationale, je fais partie de l'équipe nationale. C'est sûr que...
Toi, tu fais partie de l'équipe nationale?
Exactement, ouais.
Pas Nathan, mais c'est quoi la différence? Les hiboux, c'est pas national?
C'est national, ça reste c'est l'équipe du Québec,
on va
dire comme ça ici.
Ouais.
Mais il y a l'équipe quand même internationale, pareil aussi.
Que tu es là-dedans.
Exactement.
Mm-hmm. OK.
Ben, tu sais... Je veux pas, si le sport peut se développer pour avoir peut-être des Paralympiques, ça serait peut-être d'avoir pour la chance de participer à des Paralympiques. Ça serait ça un peu mon...
Donc, il n'y a pas... Ça veut dire qu'il n'y a pas de Paralympiques?
En ce moment, non.
Non.
Avec le hockey sonore?
Pas encore.
Pas encore.
Ben non.
Non,
pour
pas encore.
Pour vrai?
En effet, ouais, il y a pas encore.
Ben...
C'est ça, c'est en développement, mais il ne l'a pas encore.
Le problème, c'est que ça prend 8 équipes,
exact.
8 pays. À date, on est, si je peux dire ça comme ça, on est 2,5.
Ouais. Ben voyons, 2,5.
Parce qu'il y a le Canada, les États-Unis, les deux classiques.
Oui.
Puis
la
demi, je dis demi parce qu'il y a pas un, c'est pas la Finlande, la Suède, ils appellent ça l'équipe du monde, c'est tout.
Oh mon Dieu.
Ouais, c'est ça.
Ok, là, c'est ça, là, tout mélangé, on va en chercher deux dans ce coin-là, deux dans l'autre coin.
Exact.
C'est
on fait
ça.
Une équipe.
Ah oui, c'est pour ça que tu dis la demi.
2,5,
Ouais. Ok. Ah les gars, je savais pas ça. Moi, j'étais sûre qu'il y avait du Paralympique hockey sonore là. Je me disais, c'est sûr. Je peux pas croire que... Mais, OK, mais qu'est-ce qui fait que, d'après vous, là, parce que là, vous êtes dans les bouts, vous avez sûrement une bonne idée aussi, tu sais, de la constitution de l'équipe, là. Est-ce qu'on pourrait dire que majoritairement, on est vers des personnes, tu sais, 40 ans et plus, et que vous êtes pas beaucoup à être des jeunes de la relève?
En effet, il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, de 40 ans et plus qui...
Ouais.
Qui
jouent
ouais,
là, de
ça.
Façon récréative.
Puis c'est sûr que la relève est un défi en tant que tel pour les bouts en ce moment. On essaie d'aller chercher, puis de plus en plus, on essaie de vraiment pousser parce qu'on voit que, tu sais, comme il manque de relève et qu'on pousse vraiment avec les bouts juniors, un programme de développement.
Qui n'y a pas encore.
Exactement. Moi, récemment, on a commencé tout récemment à poster plus de vidéos sur les réseaux sociaux pour les hiboux, pour essayer d'attirer du monde, des fois de bouche à oreille, des fois ça peut juste être un oncle, un frère qui a dans sa famille une personne avec un handicap visuel. Donc c'est sûr que moi je me suis pris ça à cœur puis j'ai commencé à mettre des vidéos pour pouvoir promouvoir les hiboux pour construire la relève.
Et de là, comme tu dis aussi, des hiboux juniors. Là, on ne mettrait pas un jeune de 8 ans avec un 23 ans. Là, c'est ça. Là. Mm-hmm. Mais t'sais, j'avoue que ça pourrait vraiment être chouette là, d'avoir des jeunes tout petits. Là, t'sais, je vois ça, mm-hmm. là, il me semble. On les apprend t'sais, tranquillement. On les prend, sont jeunes, puis on les monte graduellement dans les hiboux là, de l'équipe adulte. Mais toi, Thomas, t'sais, dans le fond, en ce moment, dans l'équipe, là, est-ce que vous êtes les deux seuls?
Ouais, moi et Nathan, on est les plus jeunes. Je crois qu'on est les plus jeunes.
Oui!
Ouais, c'est ça. Fait que...
Ah oui, c'est ça. Ouais. Fait que vous êtes les plus jeunes.
Oui, on est les plus jeunes.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont 25, 26, 20? Ou après ça, ça fait un gap, puis on monte...
30 ans, je crois.
30 ans, quelque chose. Okay. Il y a un bon gap, là.
30, mais 30, pas 30.
Un bon gap, mais pas non plus, tu sais... 30 ans, il y en a,
pas
c'est
juste
ça.
Du monde de 60 ans, non, là, non, c'est non, ça. Non. Mais ça reste quand même qu'il n'y a pas tant de jeunes. Mm-hmm. On le voit, là. T'sais, si vous êtes les deux seuls, finalement, dans la vingtaine, en plus d'être dans la jeune vingtaine, et il n'y en a pas d'autres, après ça, ça monte plus 30-35. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez Hugues Leduc?
Oui, oui. Ouais.
Il joue, hein, je pense.
Oui, il joue. Oh, il, joue ouais. Ouais.
Il joue, c'est ça. Bon, mais tu sais, Hugues, il a peut-être fin trentaine. Tu sais, c'est ça, là, il a pas 25 ans, là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça. Mais, fait que là, ça veut dire que même si vous rêvez à ça, ça veut dire que ça ce n'est pas fait, donc ça mm-hmm. doit se faire. Moi, je verrais vraiment, on dirait que... T'sais, vous êtes comme un team qui pourrait vraiment être intéressant. Je veux dire, toi, oui. Nathan, avec ton bagage, comme intervenant, mm-hmm. en même temps, le sport, tout ça, t'sais, comment tu pourrais développer finalement des programmes mm-hmm. pour aller exact. Chercher les jeunes mm-hmm. et pas juste être coach, là, t'sais, mm-hmm. en plus mm-hmm. de faire de l'intervention, ouais. Tout ça. Puis toi, ben je verrais vraiment que tu pourrais faire l'espèce de vendeur qui s'en va s'asseoir à des... Non, mais tu sais, genre, tu rentres à quelque part puis tu fais un peu comme de la promotion puis, tu sais, je pense que ça peut être super intéressant, tu sais, que t'ailles dans les écoles, tu sais, que... Je sais pas, je suis en train de t'inventer.
Ouais, j'en prends note.
Non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je vois que tu sais, vous pourriez avoir mm-hmm. vraiment, tu sais, vous pourriez être deux beaux modèles pour les plus jeunes. Parce que c'est ça. Tu sais, même moi, quand je dis tu sais, que je me suis donné le pari d'aller chercher des plus jeunes, c'est pas facile. Mm-hmm. Tu sais, fait que j'ai moi aussi travaillé fort là, pour. Tu sais, en plus, c'est ça, vous n'êtes pas allé à l'école Jacques Ouellette. Donc, ça aussi, tu sais, c'est comme un chemin, cette école-là, parce que là, ce n'est que des jeunes en situation mm-hmm. de handicap visuel, mais vous n'êtes même pas allé à ces...
Non, j'étais allé à une école normale. Régulière. Mettons, j'étais allé au sport-études.
C'est ça. Donc, pour ça, mais il y en a d'autres, là. Mais où sont-ils? Mm-hmm. Dans vos amis, est-ce qu'il y en a qui ont un handicap visuel?
Pour ma part, non. Mais oui, j'ai un bagage de personnes avec un handicap visuel, mais elles sont beaucoup... Tu sais, j'ai un ami, mais tu sais, qui est très hockey, très sport, puis ouais. Je sais qu'il est très, mais il est dans
il est
le bas du fleuve, là.
Ouais, c'est ça, tu fais le signe de la main, c'est là, fait que là, on voit qu'il est pas proche,
ouais,
là.
Ouais, ça, il est très, très, très loin.
C'est ça. Donc, c'est un peu loin de jouer à Montréal.
Sinon, dans mes amis proches ou dans mon entourage, la vie quotidienne, il y en a vraiment pas, là.
Ben, tu sais, c'est ça, il y a peut-être beaucoup de joueurs qu'on sait pas, mais le problème, c'est que... ça peut être plus difficile de venir jouer à Montréal aussi, juste, mettons, un soir le lundi soir, mm-hmm. Tu sais, fait oui, moi, je connais pas personne dans mon entourage nécessairement, fait que c'est un peu ça le challenge aussi, tu sais, mm-hmm. de trouver du monde qui veut venir jouer aussi, des jeunes, c'est sûr qu'il y en a, tu sais, au Québec, on est 8 millions, c'est sûr qu'il y en a
ben oui,
part,
ben oui, il y en a, puis tu sais, puis en plus, on met là-dedans toutes les maladies visuelles, tout confondu. Je veux dire, il y en a de la maladie visuelle. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'ils sont ailleurs, ces jeunes-là. Mais là, si, exemple, il y a un parent qui entend ça, puis là, qui pense à son jeune qui est en situation de handicap visuel et tout ça, là. Mais là, les hiboux, vous jouez le lundi, mm-hmm. tout le temps?
Tout le temps,
ouais. Ouais,
ben,
ouais.
Est-ce que c'est à la même place?
Toujours à la même place, oui.
Ouais.
Tu sais, c'est ça, là, mais exemple, moi, là, je me dis, OK, là, je parle de moi, je parlais du parent juste avant, mais exemple, on veut être plusieurs à aller vous voir jouer, là. Ça, c'est possible?
Oui.
On peut aller vous voir jouer?
Oui.
pour revenir allumer une petite flamme, là, quelque chose. Là. Donc, c'est pour ça que vous jouez les lundis. À quel endroit?
À l'Arena Francis Bouillon, sur Rouen. Là.
Qui est où, ça?
C'est dans le Chagas, mais dans le Chagas Maisonneuve, okay. C'est à côté du métro Préfontaine. En
fait. OK, ouais, c'est ça. OK, dans l'Est.
Ouais.
Puis ça, vous êtes là tout le temps, le lundi. Mais vous jouez contre qui?
On joue entre nous autres.
Ouais.
Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça fait que c'est, dans le fond, c'est entre vous.
Ouais.
Donc, ça, on va vous voir plusieurs lundis. Les équipes sont tout le temps différentes, là.
Exact. En fait, mais le comité, on va dire, du CA, mais il divise l'équipe en deux, puis pour essayer d'équilibrer les choses.
Mm-hmm.
Fait qu'au cours de la saison, on va jouer un peu avec tout le monde.
Tout le monde.
Puis, mais on va être une semaine, on peut être avec les oranges, puis une autre semaine, on peut être avec les okay. noirs. Fait que, ouais.
Alors, ben là, moi, puis je sais qu'il y a un événement majeur qui approche, mais je vais recevoir Gilles Ouellette pour en parler.
Okay. Je pense que c'est quoi, ouais. Mais
okay. Ben, vous savez c'est quoi, c'est sûr. Vous
on
êtes
va
dans
la parole.
Vous êtes dans les hiboux, donc vous le savez. Mais moi, cette fameuse fois-là, moi, je vais y être. Là. Moi, c'est sûr, c'est rentré dans mon agenda. Là, et en plus, là, je vais venir vous encourager. Mais on va pouvoir en reparler avec Gilles dans une prochaine émission. Merci, Thomas. Merci, Nathan. Ça a été vraiment passionnant de vous entendre. Et moi, je remercie tous mes invités aujourd'hui. Ma belle chroniqueuse de Annie Perrault, Mathieu Tessier à la mise en onde. Puis on se retrouve pour une autre belle émission de Mission Vision la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.